place publique.
Faut-il resserrer l'accès à certaines armes à feu ? La Suisse planche sur la question dans le but de se conformer aux nouvelles règles voulues par l'Union européenne. Si certains veulent relancer le débat sur les armes, d'autres sont plus nuancés, voire franchement hostiles à toute remise en question du système actuel. Notre discussion dans un instant. Les Suisses adorent l'avion. Le problème, c'est que ça pollue. Les milieux environnementaux proposent donc de taxer les billets d'avion pour dissuader les voyageurs de s'envoyer trop facilement en l'air. Et pourquoi pas privilégier plutôt le train ou moins voyager. L'objectif, c'est de limiter, bien sûr, nos émissions de gaz à effet de serre. C'est notre débat qu'on vous propose aux alentours de 18h30 après le flash. Le racisme est toujours d'actualité. Un rapport publié lundi indique que le nombre de cas de discrimination raciale a même augmenté l'an dernier par rapport à 2016. La présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Martine Brunschvicg-Graf, sera aussi avec nous pour en parler.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Faut-il durcir la législation sur les armes pour lutter contre la menace terroriste ? La question se pose à l'heure où l'Union européenne, via l'accord de Schengen, prévoit des mesures dès l'année prochaine pour améliorer l'identification et la traçabilité de certaines armes à feu. Une directive à laquelle la Suisse entend bien se conformer. Le Conseil fédéral entend malgré tout ménager la tradition suisse des armes. Le but, c'est surtout de mieux cadrer l'accès à certaines armes à feu, comme par exemple les armes semi-automatiques qui permettent de tirer plusieurs coups d'affilée sans devoir recharger. Parmi les conditions requises pour se servir de telles armes, le Conseil fédéral conseille par exemple l'affiliation à une société de tir ou l'exercice régulier du tir sportif. Rien ne change par contre pour ce qui concerne le maintien des armes de service à domicile et pour les chasseurs qui sont épargnés de tout contrôle supplémentaire. Alors ce projet a été débattu hier par la Commission de sécurité du Conseil national. On en parle ce soir dans Place publique avec nos deux invités. Tout d'abord vous, Rémi Boren, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tireur sportif neuchâtelois et membre du club du tir sportif du Val de Travers. Bienvenue. Avec vous également, Alexandre Vautravers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en sécurité et collaborateur scientifique au Global Studies Institute de l'Université de Genève. D'ailleurs, vous venez de lancer un master, on l'a déjà annoncé, mais on le redit, un master dédié à la sécurité globale qui étudie précisément les questions liées aux accords de Schengen. On se réjouit d'entendre votre éclairage. Mais on commence avec vous, Rémi Boren, pourquoi les milieux du tir sportif que vous représentez sont aussi remontés contre ce plan du Conseil fédéral qu'on dit allégé et qui semble plutôt pragmatique ?
Simplement parce que c'est une loi de plus qu'on nous met et qui va corser l'adhésion à une société de tir. Pour lâcher, c'est la première cartouche. Si on a des complications administratives pour arriver à lâcher cette première cartouche, ça va décourager certains et les sociétés de tir en général vont perdre des membres et surtout des nouveaux membres. Le mieux, c'est vraiment de les encadrer et de leur apprendre ce que c'est le maniement d'une arme.
Mais en quoi exiger l'affiliation à une société de tir ou l'exercice régulier du tir sportif pourrait nuire à vos intérêts ? On a plutôt l'impression que ça permettrait d'attirer plus de monde.
Non, ce serait des faux membres, si on peut le dire. C'est des gens qui se sentiront obligés, donc ils ne seront pas intéressés par la société et qui, tôt ou tard, disparaîtront de la société. Ils le feront certainement d'une autre manière, illégale, où là, on n'aura plus de contrôle sur eux. Et pour nous, ça sera très compliqué aussi de mettre en application cette loi, parce que déjà, elle contrevient à la Constitution helvétique qui dit qu'on n'est pas obligé d'adhérer à une association pour pratiquer une activité. Donc il faudra encore revoir ce point-là aussi.
Alexandre Vautravers, la Suisse, en fait, est-ce qu'elle a le choix de faire autrement que d'appliquer cette directive européenne, en tout cas si elle veut rester membre de Schengen, même si ça occasionne, on l'entend, certaines complications administratives ?
Bon, il y aurait eu pour le Conseil fédéral différentes possibilités de se soustraire à cette obligation, mais malheureusement, le Conseil fédéral a fait le choix très rapidement dans les discussions avec le Parlement de dire que cette directive européenne faisait partie de l'acquis Schengen et donc qu'il n'y avait rien à discuter. Donc à partir de là, j'entends, on est obligé de vivre avec cette décision stratégique du Conseil fédéral qui met effectivement tout le monde en Suisse dans un certain embarras.
Mais Rémi Boren, on n'a pas l'impression que ces règles, même si elles vous embêtent, vous empêcheraient de pratiquer votre activité. Surtout que ces règles ne touchent pas à une tradition suisse fondamentale, le maintien de l'arme de service à domicile. Est-ce que l'essentiel, encore une fois, n'est pas préservé ?
Oui et non. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que plus on nous met des lois, des lois devant nous, plus ça complique l'exercice. Aussi au niveau des cantons, je rappelle quand même que les cantons, ça va leur coûter très cher de mettre en application cette loi. Pour le canton de Neuchâtel, ça représente 5 équivalents à plein temps. Donc vu notre budget cantonal qui est déjà pas faramineux, je pense qu'ils ne vont pas engager des nouvelles personnes, mais au contraire, dégager des gens de la police pour faire ce travail. Donc, moins d'argent sur le terrain, donc moins de sécurité. Donc, je suis désolé pour tous les partisans de cette loi de Schengen et de l'Europe. Ça va nous corser et pas améliorer la sécurité. Parce que le but de cette nouvelle loi, c'est uniquement pour contrer le djihadisme. Je pratique le tir depuis quelques années. J'ai jamais vu un djihadiste dans les fêtes de tir.
Alexandre Vautravert, vous avez la même impression. Cette loi, cette directive européenne, dont le but est clairement de lutter contre le terrorisme, manque sa cible.
Alors totalement. En fait, cette directive européenne a commencé à être discutée au Parlement européen à partir de 2005. Donc dans un contexte où on était en train de parler à l'époque de 9/11, on était en train de parler d'Al-Qaïda, des tours jumelles, de l'intervention militaire américaine en Irak. Donc c'était un tout autre contexte, on n'était pas en train de parler des attentats de Paris ou de ce genre de situation. Alors malheureusement, la Commission européenne s'est saisie et a approuvé ce document, cette directive, quelques semaines, quelques jours après les attentats de Paris, donc a utilisé ce prétexte des attentats terroristes pour rapidement sortir une activité, une action qui limiterait l'accès aux armes. Alors, quelque part, on peut comprendre un objectif qui est de lutter contre le terrorisme, mais je crois qu'il faut être extrêmement clair, cette loi n'apportera strictement rien en termes de contrôle des armes illégales, en termes du trafic d'armes. Bref, cette arme manque sa cible. Sa cible devrait être de s'attaquer véritablement à la radicalisation, à l'endoctrinement de certaines personnes, peut-être au décrochage de certains individus vers une tentation d'absolu ou d'actes délictueux ou d'actes terroristes. Mais clairement, on n'est pas là dans une situation où cette directive fait quoi que ce soit dans la lutte contre le terrorisme.
Alors, on vous comprend bien tous les deux, vous êtes plutôt critique par rapport à cette directive, mais ce que je comprends moins bien par contre, Alexandre Vautravert, c'est quel risque prend le Conseil fédéral à vouloir prendre certaines mesures pour les armes semi-automatiques, ou corrigez-moi si je me trompe, en tout cas les armes qui permettent de tirer plusieurs coups d'affilée sans devoir recharger, même si ça n'aidera pas à lutter contre le terrorisme, ça pourra au moins protéger davantage la population. Quel est le problème de fond ?
Bon, je pense que le problème de fond, si on remonte vraiment dans les questions de doctrine, c'est que malheureusement, quand on parle des armes, on parle de différentes choses qui en fait n'ont rien en commun. Donc le problème du suicide, c'est un réel problème. Il faut s'attaquer à cette problématique pratiquement de santé publique. Mais le phénomène, les cas de suicide n'ont pas grand-chose à voir avec le commerce des armes, par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec une industrie nationale d'armement. Ça n'a rien à voir non plus avec les exportations d'armement de la Suisse. Ça n'a rien à voir avec la violence conjugale. Bref, malheureusement, on est en train de faire un énorme amalgame avec tous ces différents éléments qui, en fait, ne sont pas véritablement connectés.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Et on retrouve nos deux invités, Rémi Boron, tireur sportif neuchâtelois, et Alexandre Vautravert, expert en sécurité et collaborateur scientifique au Global Studies Institute de l'Université de Genève. On parle de la volonté du Conseil fédéral de la Suisse de s'adapter aux nouvelles directives, à la nouvelle directive européenne en matière de contrôle des armes. Rémi Boron, peut-être cette question, au vu du contexte actuel chargé sur le plan émotionnel, avec le débat sur les armes largement relayé aux États-Unis, avec aussi cette menace terroriste qui est toujours vive, même si on mélange tout, même si on se mélange les pinceaux, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de rassurer la population avec des mesures, quelles qu'elles soient ? Quelle doit être, selon vous, la priorité du Conseil fédéral ?
Alors tout d'abord, juste pour notre avis de tireur, cette loi Schengen que le Conseil fédéral défend, c'est uniquement et purement économique. On nous fait croire que si on baisse pas les culottes devant Bruxelles, on va tout nous couper. Et c'est tout faux. L'argument sécuritaire, même M. Vautravers l'a reconnu, il vaut rien. Le cas de suicide, il vaut rien non plus. Parce que le cas du suicide, qu'il faut analyser, et ça, je ne parle pas comme un expert, mais l'ayant vécu dans ma famille, ce n'est pas le moyen utilisé, mais c'est la cause d'en arriver là. C'est un moment de désespoir, et de toute façon, la personne qui voudra le faire, qu'elle ait une arme à feu ou pas, elle trouvera un moyen. Et ça, je sais de quoi je cause. Ensuite, au niveau du Conseil fédéral qui prône de nouveau ça, c'est de nouveau pour faire les beaux devant l'Europe. On veut toujours se plier. Et nous, on propose plutôt, c'est de dire, les gens qui veulent acheter une arme, qui ne font pas de tir sportif, on n'a pas le droit de les obliger à être membres d'une société, de passer devant un psychologue. C'est quand même pas des gens qui sont à moitié fous. Il y a des gens très raisonnables, il y a des gens très respectables. Il y a même des notables qui font du tir, uniquement par passion, sans faire de concours. C'est juste une passion de vouloir aller au stand tir. Il y a dans les nouveaux stands, comme le projet que nous avons à but d'un stand régional, de faire ce qu'on appelle un cadet-box, c'est pour que les gens puissent assouvir leur passion dans des conditions de sécurité maximum. Ce qu'on peut peut-être proposer, qui serait certainement pas fou, c'est que dans les armuriers, avant de vendre une arme à une personne qui n'est pas membre d'un tir, d'une société de tir qui fait un championnat de groupe au niveau cantonal, au niveau national, et des compétitions de matchs comme je pratique, de dire, vous avez, comme le permis, on fait d'abord une évaluation sur place, dans un stand tir, on apprend le maniement, on apprend à démonter, à nettoyer, à remonter et à utiliser l'arme, à renouveler 5, 7, 10 ans, pas de problème. Mais on doit simplement éduquer les gens. Il faut arrêter déjà de prendre les gens pour des imbéciles, de dire qu'ils ne savent rien faire, qu'ils sont dangereux. Mmh. Et là, on va pénaliser tous les tireurs suisses en leur faisant passer pour des terroristes. Alors que si vous avez l'occasion de venir dans un tir fédéral, il y a 200 000 cartouches ou 500 000 cartouches qui se sont tirées à Rarogne. Et il n'y a pas eu de bagarre.
Rémi Morel, on vous a bien compris. Alexandre Vautravers, dernière question pour vous. La gauche, soutenue par plusieurs fêtières de psychologues et psychiatres, mais aussi la fêtière des syndicats de police, ont voulu profiter de cette directive. Non, pas tous. La fêtière des syndicats, ça ne veut pas dire tous les fonctionnaires de police. On a profité quand même pour essayer de relancer le débat sur les armes, en demandant de meilleurs contrôles, une meilleure traçabilité. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas là un créneau pour faire un pas de plus, pour rassurer la population, encore une fois?
Pour ce qui est du domaine de la santé publique, les positions des médecins sont connues, c'est-à-dire moins il y a d'armes, moins il y a de possibilités d'accidents, etc. Donc voilà, je veux dire, c'est une position traditionnelle qui n'évolue pas, c'est quelque chose qui est tout à fait attendu. Pour la prise de position récente de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, alors il faut prendre cela pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est une fédération qui représente les fonctionnaires de police, ce ne sont pas tous les policiers et ce ne sont pas toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Je prends juste un exemple pour montrer que c'est un petit peu plus compliqué que de dire que tous les policiers sont pour cette directive européenne.
Que nous n'avons pas dit.
Ce que vous n'avez pas dit, c'est tout à fait juste. Il faut rappeler que la même Fédération suisse des fonctionnaires de police appelle également à être extrêmement restrictif, sur l'armement, par exemple, des auxiliaires de police, de certaines polices municipales, et je ne parle même pas des agents de sécurité privée. Donc, en réalité, là, on est face, si j'ose dire, à une position qui est corporatiste, une organisation qui défend une corporation des policiers. Et encore une fois, ils sont quelque part dans leur rôle, mais ça n'est pas l'ensemble des forces de sécurité, ça n'est pas l'ensemble des polices qui a pris cette position-là.
Eh bien, nous suivrons évidemment le destin de cette directive façon helvétique qui va encore passer par le Parlement prochainement. Merci en tous les cas, messieurs, de nous avoir donné votre éclairage. Rémi Boren, Alexandre Vautravers, on vous souhaite une bonne soirée.
J'ai juste 2 minutes.
Non, vous n'avez pas 2 minutes.
Deux minutes.
Malheureusement.
Tant pis.
Mais on se retrouvera, promis juré. Bonne soirée.
D'accord.
À vous. Au revoir, monsieur.
Merci.
Au revoir, messieurs.
Au revoir.
Place publique.
Et nous accueillons nos deux nouveaux invités. Céline Vara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente des Verts Neuchâtelois, vous êtes aussi députée au Grand Conseil Neuchâtelois et vous êtes candidate pour la vice-présidence du Parti Suisse le 5 mai prochain. Soyez la bienvenue. Avec nous également Manfred Buller, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national UDC bernois, membre de la commission des transports et on parle précisément de mobilité hein, puisque les milieux environnementaux proposent de taxer les billets d'avion. C'est une mesure dont la presse a abondamment parlé hier, on en a parlé lundi, pour favoriser bien sûr les voyages en train mais surtout pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Ils sont écrits en ce sens à la conseillère fédérale Doris Leuthard et Céline Vara. C'est pas pour rien que l'avion est visé puisque le trafic aérien pèse très lourd hein, en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
Absolument. Aujourd'hui, personne ne peut sérieusement croire que voler jusqu'à Berlin ne coûte que le prix d'un billet de cinéma. En ratifiant l'accord de Paris sur le climat, la Suisse s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 50% hein, d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Et puis sans mesure, les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien doubleront d'ici à 2030 et tous les objectifs climatiques seront hors de portée.
Mais ça veut dire quand même que l'offre aérienne, du coup, défie toute concurrence. Les habitudes, on le sait, elles sont prises. Est-ce que vraiment vous pensez que le train, puisque c'est aussi vers ce moyen-là que vous souhaitez déporter une partie du trafic de voyageurs, peut devenir concurrentiel, notamment en termes de prix ?
Absolument, le train est absolument concurrentiel. C'est très facile de faire un retour en arrière, notamment au niveau des habitudes. Pourquoi ? Parce que les infrastructures existent, hein, les rails existent actuellement. On a un réseau ferroviaire extrêmement développé en Suisse, et c'est une chance, c'est très bien entretenu. Les Suisses aiment le train, ça fait partie de la culture et de l'histoire suisse. Et puis, je pense qu'il faut retrouver aujourd'hui le plaisir du voyage, en plus de la satisfaction de la destination.
Alors là, on parle de l'Europe, des villes européennes, mais si on veut aller par exemple en low cost, même jusqu'à Los Angeles, puisque c'est un peu la tendance, le monde se rétrécit et devient moins cher. Est-ce que vraiment, là, on parle des mêmes choses ?
Alors évidemment, bien sûr, il faut faire une pesée d'intérêt. La question se pose aujourd'hui de savoir si on taxe les billets d'avion. La manière dont on peut taxer ces billets d'avion pourrait par exemple prendre les exemples des pays qui nous entourent, notamment de savoir que cette taxation se base sur un nombre de kilomètres ou sur la classe qu'on emprunte.
Manfred Buller, on l'entend, hein, la Suisse a intérêt, selon les milieux environnementaux, les Verts en tête, a intérêt de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ce ne serait pas légitime de viser le trafic aérien, d'autant plus que d'autres pays s'y mettent ?
Non, je crois que là, il y a un problème de fond qui est celui, finalement, du respect de la liberté des citoyennes et des citoyens, des entreprises. Je crois que le trafic aérien fait partie de notre culture, au moins autant aujourd'hui, au XXIe siècle, que le train. Et évidemment, je comprends que les milieux verts ou de gauche combattent cette idée, mais c'est une réalité aujourd'hui. On a rendu accessible, et c'est une bonne chose, à toutes les couches de la population, le transport aérien. Il y a 40 ans, c'était un luxe inimaginable de prendre un avion. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut se l'offrir et en taxant les billets, on va prendre des mesures totalement antisociales et toucher les personnes à faible revenu qui peuvent de temps en temps s'offrir le plaisir d'un voyage en avion et qui seront les premiers pénalisés. Et ça me choque venant des milieux de gauche.
Céline Vara, choquant finalement de s'en prendre aux personnes à bas revenus qui peuvent enfin s'offrir des voyages à l'étranger.
Mais écoutez, c'est une vision absolument réductrice, hein, puisque en l'occurrence, un sondage représentatif mené par Univox qui a été fait en fin 2016 démontre que dans toutes les couches sociales, 70% des personnes approuvent une contribution de transport aérien à la protection du climat. Aujourd'hui, d'ici 2030-2050, c'est le plus gros problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une question de parti de gauche, hein, ni une question d'écolo. Le réchauffement climatique est une réalité, on ne peut plus le nier. Et puis, le transport aérien représente dans le monde entier la moitié de ces effets de gaz, de ces gaz à effet de serre. Donc, on ne peut pas simplement fermer les yeux sur cette question-là. Et puis, si les pays qui nous entourent ont pris des mesures à ce titre, c'est pour une bonne raison. La Suisse ne doit pas louper le train ou louper l'avion selon comment on voit les choses.
Manfred Buller, est-ce que c'est encore le moment de faire une pesée d'intérêt hein, par rapport à cette imminence du climat ?
Eh bien, je crois que la Terre a son climat qui a varié de tout temps. Aujourd'hui, il y a effectivement un réchauffement qui est dû à l'homme en partie, sans aucun doute, mais aussi en partie à des phénomènes naturels. Et je préfère investir mon énergie à adapter la société humaine à ces nouvelles réalités plutôt qu'à taxer l'économie, à taxer les voyages, à taxer tout ce que l'on pourra trouver. Et nous avons des transitions qui sont par exemple en cours dans le chauffage des bâtiments avec de nouveaux systèmes qui sont soit neutres en CO2, soit qui émettent beaucoup moins de CO2, par exemple, avec le bois énergie. Et en tout cas, en Suisse, le chauffage des bâtiments est la source la plus importante de production de gaz à effet de serre, ou en tout cas une des sources les plus importantes. Et c'est là, à mon avis, qu'on peut agir beaucoup mieux plutôt que de taxer des billets d'avion qui, quand bien même, ils seraient 10, 20 ou 50 francs plus cher l'unité. Je pense que ça n'empêchera personne de prendre l'avion.
Mais Manfred Buller, quand même, revenir sur un mot de Céline Vara d'entrée de jeu, elle nous rappelle que le billet d'avion peut être ridiculement bon marché et que souvent même, ça a été rappelé, le billet de train pour aller à l'aéroport est plus cher que le vol lui-même. Est-ce qu'on n'a quand même pas perdu un peu le sens des mesures?
Non, c'est un faux problème. Vous savez, les billets dégriffés, ils existent aussi dans le transport ferroviaire. Les CFF proposent des billets avec des réductions jusqu'à 70%. C'est la même chose dans le trafic aérien. Ce sont quelques billets par avion qui sont extrêmement peu chers. C'est un produit d'appel. Et puis, la grande majorité, l'immense majorité des clients du trafic aérien, même pour les low cost, payent des prix beaucoup plus élevés qui vont sans doute être soit équivalents au train, soit même plus chers pour certains cas. Donc, c'est un faux problème que de viser ces quelques billets très peu chers qui sont offerts par les compagnies.
Céline Vara, l'objectif, au final, soyons francs, c'est plutôt que de faire payer plus cher l'avion, c'est finalement nous contraindre à changer nos habitudes, vous l'avez quand même mentionné, et nous faire voyager moins. Il n'y a pas le choix.
Pas voyager moins, voyager différemment, intelligemment. Et puis, moi, je n'ai pas les mêmes informations que M. Buller, puisque l'Office fédéral de l'environnement, en 2017, donc l'année passée, démontrait, chiffres à l'appui, que finalement, les gaz à effet de serre produits par le trafic aérien, c'est 18%. Juste devant, on a uniquement la circulation routière à hauteur de 27%. Et juste derrière, l'industrie à 16%. Donc on voit bien que la question du trafic aérien, elle est primordiale dans la lutte pour le réchauffement climatique. Et M. Buller, qui est quand même fils de paysan, devrait être sensible à cette question de la protection de l'environnement. D'une part, parce que véritablement aujourd'hui, ce qui est important, c'est pouvoir avoir pour les générations futures une air respirable. Un environnement respirable.
Manfred Buller, est-ce que ce n'est pas finalement paradoxal que d'investir pour des moyens de ménager, pour ménager l'environnement, alors que derrière, eh bien, on voyage à tout va et on pollue 10 fois plus?
Bien, je crois que c'est le cœur du problème, effectivement, dont on parle ici. C'est est-ce que on va taxer les gens qui doivent se déplacer? Certains le font pour le plaisir, d'autres n'ont pas le choix. Le trafic domestique des voitures, c'est effectivement une grande source aussi d'émissions de CO2, mais la plupart des gens qui doivent se rendre à leur travail n'ont pas vraiment le choix d'y aller. Et ils ne peuvent pas prendre les transports publics, notamment dans ma région, puisque les transports publics ne sont pas aussi denses que dans les centres urbains. Donc, le choix de société qu'on nous propose ici, l'alternative, c'est de dire soit on a une société dirigée où l'État va nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire et où est-ce qu'on doit vous taxer pour vous punir si vous avez l'outrecuidance de prendre l'avion pour le plaisir, ou bien une société, ma foi, où la liberté existe et où la technologie doit aussi nous aider dans les décennies à venir à résoudre un certain nombre d'enjeux et notamment les émissions de CO2. On a quand même des perspectives d'avenir tant pour le trafic automobile que pour le trafic aérien où les réductions sont déjà une réalité aujourd'hui avec des moteurs beaucoup plus économes dans les voitures ou des réacteurs beaucoup plus économes pour les avions et puis des nouvelles technologies qui, je n'en doute pas, d'ici quelques dizaines d'années, rendront ce problème du CO2 totalement obsolète.
Céline Vara, pour conclure, le Conseil fédéral, lui, partage l'objectif qu'il faut diminuer, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, mais il conteste la méthode, à savoir taxer les billets d'avion. Il en veut pour preuve ce qui a été observé dans d'autres pays qui ont pratiqué cette mesure, au Danemark, Pays-Bas, Autriche. Apparemment, il a été observé que des passagers sont allés à l'étranger pour voler. Du coup, ces pays ont dû réduire leurs taxes. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, ce serait mieux de prévoir d'autres mesures, comme par exemple faire participer les compagnies aériennes aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre? En gros, plus elles polluent, plus elles payent.
Alors qu'on soit clair, toute mesure qui permettrait de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont bonnes à prendre. Cela dit, l'expérience démontre, et puis aujourd'hui on a un article qui est paru qui est très très intéressant, qui démontre que, en l'occurrence, lorsqu'on rend le sac plastique payant, on l'utilise 84% de moins. Donc on voit bien que lorsqu'on touche au porte-monnaie, lorsqu'on prend une mesure concrète, parce que la politique c'est pas que du blabla, à un moment donné il faut agir, on se plaint qu'il y a le réchauffement climatique, il faut trouver des solutions, et puis il faut les appliquer ces mesures. Donc on voit bien que quand on touche le porte-monnaie, ça fonctionne, il n'y a pas d'autre mesure plus efficace.
Manfred Bader, une dernière réaction.
Je conteste clairement cette analyse pour les sacs plastiques. C'est très intéressant que cet exemple vienne sur la table. J'allais l'amener si la discussion le permettait. Je suis persuadé que le fait qu'on diminue l'usage des sacs plastiques aussi massivement n'a rien à voir avec les 5 centimes à payer. Ces 5 centimes n'empêchent personne qui a besoin et envie de prendre un sac plastique à la caisse de le faire. La mesure, elle est efficace parce que, un, les magasins l'ont introduite volontairement. Il n'y a pas d'obligation encore à ce stade. Et deuxièmement, la chose la plus simple qui s'est passée, c'est que les rouleaux ne sont plus à disposition sur les caisses. Il faut demander à la caissière et ce simple geste de demander retient un certain nombre de personnes de le faire. Et on a la consommation qui n'est plus en libre service à la disposition de chacun, qui diminue drastiquement, mais c'est une mesure tout à fait volontaire, ça n'a rien à voir avec la taxe.
Eh bien, vous ne tomberez pas d'accord ce soir. Céline Vara, Manfred Buller, merci d'avoir débattu au sujet de cette mesure qui va faire parler, évidemment, taxer le billet d'avion. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu dans nos studios.
Au plaisir, merci.
Au revoir.
Place publique.
Le racisme ne faiblit pas en Suisse. Les incidents répertoriés sont même en hausse. Quelques 300 cas de discrimination raciale ont été recensés l'année dernière, contre 200 en 2016. C'est une augmentation d'un tiers. Et parmi d'autres enseignements, on retient que le phénomène est en augmentation dans les écoles et la population noire est particulièrement visée. On précise aussi que ce rapport a été publié lundi pour la 10e année consécutive. C'est une initiative de l'association humanrights.ch qui vise cette association à renforcer les droits humains. Et c'est aussi une initiative de la Commission fédérale contre le racisme, dont on a le plaisir de recevoir la présidente, justement, Martine Bunschwig-Graf. Bonsoir.
Bonsoir.
Plusieurs cas répertoriés, plus de cas répertoriés, avec même un nombre record, dit le rapport. Alors précisons quand même qu'il s'agit uniquement des cas avérés et portés à la connaissance des centres de conseil, et que leur hausse ne signifie pas encore que le phénomène augmente dans les mêmes proportions dans la société.
Oui, tout à fait, parce que là, c'est les cas qui sont portés à notre connaissance, d'une part, donc on peut pas faire de comparaison définitive et on veut pas en faire de cette façon. Et puis deuxièmement, ce qu'on peut peut-être aussi dire, c'est que probablement, on vient plus facilement quand même auprès d'un centre d'écoute que précédemment, et ce qui permet de constater une augmentation sans qu'on puisse autant dire que le racisme augmente pour autant, hein, pour être clair.
Manifestement, il n'y a pas d'âge pour les discriminations raciales, ça se joue dès le plus jeune âge, on parle même d'école enfantine.
Oui, ça c'est les observations qui sont faites. C'était d'ailleurs une des surprises des résultats de cette année de constater que la petite enfance, les lieux de la petite enfance et l'école, et notamment l'école obligatoire et l'école enfantine, comme vous me le mentionnez, sont des lieux où la discrimination peut s'exercer et où parfois la mise à l'écart ou des propos pas acceptables sont tenus.
Et comment agir alors du coup dans ce milieu-là? Est-ce que ça veut dire que c'est une défaite de l'enseignement? Est-ce que c'est une défaite des parents quand ça se joue aussitôt?
Non, moi j'utilise jamais ce genre de terme parce qu'on est dans la prévention et que c'est un travail qui est sans cesse à renouveler parce que les élèves passent et donc les problématiques aussi. Et donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est que lorsqu'on constate, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, lorsqu'on constate une discrimination ou des actes de nature raciste ou de rejet ou de comportements qui ne sont pas acceptables, de commencer à en parler. Et puis à prendre les mesures lorsque c'est possible, c'est-à-dire prendre les mesures à l'école pour éviter que ça se reproduise. Et puis, si cela ne se produit pas, c'est là où les centres d'écoute sont aussi extrêmement importants, parce qu'on peut en parler et qu'ensuite, il y a des médiations possibles.
Alors, on ne parle pas seulement de propos insultants quand on parle de cas de discrimination raciale. On parle bien sûr aussi d'inégalité de traitement dénigrant ou encore de refus de prestations, y compris de la part d'employés d'institutions publiques.
Alors, personne n'est à l'abri et je dirais le comportement de rejet, on le sait parce qu'on a constaté dans une enquête qui a été faite en 2017, publiée en 2017, qu'à peu près 60% de la population exprime à certains moments, 36% pardon, de la population, ça veut dire un tiers des personnes interrogées peut se sentir dérangé par des gens qui ne sont pas comme eux. Hein, ça peut être aussi bien la couleur de peau, l'origine, la langue, etc. Donc c'est un phénomène qui est connu et qu'il faut à un moment donné mettre en évidence pour que ça ne se produise pas.
Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de discrimination raciale, la tendance des cas, des incidents observés, suit d'une certaine manière les thèmes de l'actualité ? On pense aux migrations, on pense bien sûr à la menace de terrorisme djihadiste.
J'allais dire oui et non, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que lorsque l'actualité politique au Moyen-Orient est particulièrement intensive, ou lorsqu'il y a effectivement des attentats djihadistes, on voit apparaître l'antisémitisme, l'hostilité à l'égard des musulmans se fait plus forte, etc. Donc il y a un phénomène aussi, j'allais dire, saisonnier en fonction des événements, mais pas seulement, il y a aussi une attitude plus durable de rejet par ce qui est différent.
Autre type de cas répertoriés dans cette étude, peut-être des cas moins attendus, les discriminations qui visent des personnes d'origine suisse. De quoi s'agit-il par exemple ?
Vous savez, vous êtes d'origine suisse et vous pouvez être d'origine suisse et de couleur noire. Vous pouvez être d'origine suisse et puis avoir un nom à consonance étrangère.
Donc c'est des personnes perçues suisse. Comme étrangères.
Qui sont perçues comme différentes, parce que j'insiste sur le mot différentes, parce que ça peut être aussi des personnes parce qu'on soupçonne qu'elles sont musulmanes ou parce qu'on pense qu'elles sont juives, etc. Et de ce fait-là, on peut avoir des réactions d'antisémitisme ou de rejet aussi. Ça veut dire que les personnes suisses, de nationalité suisse, sont pas à l'abri de rejet et de discrimination raciale.
On peut le constater dans notre région, le racisme antifrontalier est vivace. On accuse volontiers sur les réseaux sociaux le frontalier et dans les discussions de concurrence sur l'emploi ou d'être la cause de toutes sortes de nuisances. Est-ce que cela apparaît dans votre rapport ?
Alors, il faut quand même s'entendre sur les mots. Hein. On ne parle pas de racisme lorsqu'il y a une réaction antifrontalier. On est plutôt dans une forme de xénophobie, on va dire. Et donc, on n'est pas avec une population globalement identifiée comme une population particulièrement exposée à des actes racistes. Hein. Ça, c'est une première chose à dire. Mais ce que l'on voit, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, on attise, et il y a même un ou deux partis politiques qui s'en font un fonds de commerce, hein. On attise le fait que les frontaliers peuvent déranger, et puis on laisse entendre qu'ils prennent le travail des personnes qui sont en Suisse, etc., etc. Ça, c'est, j'allais dire, un usage politique d'une situation qui fait que tout à coup, on s'aperçoit que ça peut plaire dans certaines couches de la population d'encourager ce genre de réflexe.
On distingue donc racisme et xénophobie. Que dire des cas répertoriés sur les réseaux sociaux ? Là encore, en tant que média, on est bien placé pour le voir.
Oui.
Dès qu'on publie une nouvelle qui concerne des réfugiés, des mesures en faveur de la migration, on assiste à des avalanches d'insultes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impunité ?
Alors, pas nécessairement d'impunité. Le problème est le suivant. Vous avez des propos qui relèvent directement du droit pénal. Ceux-là, on peut les dénoncer, on les annonce au procureur, et donc on peut avoir, et même je dirais que les réseaux sociaux ou les journaux qui laisseraient passer ça seraient coupables de quelque chose. Après, il y a autre chose. Il y a des propos qui ne tombent pas sous le coup de la loi ou de la norme pénale, mais qui sont néanmoins inadmissibles parce qu'ils restent à la frontière. Les gens savent très bien rester à l'intérieur des limites, mais ça n'en est pas moins irrespectueux, parfois insultant, et en tout cas très incitatif pour le rejet des personnes. Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. La commission est en train de travailler d'ailleurs sur ce sujet, mais au-delà de ça, je pense que la dernière chose à faire, c'est de se taire. Il y a une responsabilité des éditeurs, puisque vous évoquez là les médias, de veiller aussi à ce que sur les sites où ils ouvrent des blogs, hein, quand vous avez des nouvelles par voie électronique, ensuite il y a des blogs qui sont ouverts ou des commentaires, et là il doit y avoir dans la modération quelque chose qui est important.
La responsabilité chose, des médias, oui.
Oui, absolument, et des éditeurs, pas seulement de c'est pas toujours la faute des journalistes en tant que tels,
Et on va conclure là-dessus, merci infiniment Martine Brunschwig-Graf. On invite bien entendu nos auditeurs à prendre connaissance de ce rapport qui est très bien expliqué et bien détaillé avec des exemples concrets. Ça montre que ça vaut la peine d'entamer des démarches, même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès. C'est des démarches importantes. On vous souhaite une
Merci.
Bonne soirée. Vous êtes la présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Au revoir.
Bonne soirée à tous. Au revoir.
Place publique.